Alors, on va poursuivre l'étude du livre, la première épître de Pierre, que nous avions déjà commencé. On en est arrivé au chapitre 2, à partir du verset 11. Et le titre que j'ai donné à mon message, c'est « La vraie liberté ». Alors, avec la question que je vous pose, êtes-vous libre? Sinon, aimeriez-vous être libre? Qui n'aimerait pas être libre? Et alors, en lisant ce texte, peut-être vous allez vous demander, mais où est la liberté? Pourtant, c'est un texte qui nous dit comment être libre. Et je vous invite à le prendre. Donc, c'est chapitre 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3, verset 7. Et je lirai donc. Et avant cela, je vais prier. Père Céleste, merci parce que Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, parce que Seigneur, tu nous as montré le chemin, tu nous as montré l'exemple, le parfait exemple en ton Fils. Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous pour nous sauver par obéissance à toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous ouvres le cœur, l'intelligence. Je te prie, Père, que ta parole agisse dans nos cœurs. C'est vrai que nous savons beaucoup de choses. Le mettre en pratique est autre chose, Seigneur, et nous avons besoin de toi pour le mettre en pratique et de goûter que le Seigneur est bon en mettant en pratique ta parole, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, parce que tu es là pour nous y aider. Je loue ton nom, Seigneur. Conduis-nous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'à 3-7. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles, car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous de même, femmes, soyez soumises, chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur. La parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, telle Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, mari, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Magnifique parole de Dieu. Voilà, alors, je vous repose la question, êtes-vous libre? Aimeriez-vous être libre si vous ne vous sentez pas libre? Eh bien, d'après ce texte, nous pouvons dire que la vraie liberté, elle est dans l'imitation de Jésus-Christ. Pour gagner des âmes à lui, dans trois domaines. Le premier domaine, dans la société. L'imitation de Jésus-Christ dans la société par la soumission aux autorités. Deuxième domaine, au travail par la soumission à son employeur. Troisième domaine, imitation de Jésus-Christ toujours, dans la famille, par la soumission de la femme à son mari. Alors c'est ce que je vous propose de voir. La vraie liberté donc. Vous avez remarqué combien de fois revient ce refrain dit de différentes manières, la bonne conduite. Pierre nous exhorte à avoir une bonne conduite. Verset 12, 2-12, chapitre 3, 1 et 2. Une bonne conduite, à faire de bonnes œuvres, chapitre 2, verset 12. À faire le bien, chapitre 2, verset 14, 15, 20 et 3, verset 6. On est en plein dans la mise en pratique. Nous avons déjà parlé de cela ce matin et on continue dans la mise en pratique. Effectivement, de faire le bien. La mise en pratique, c'est faire le bien que Dieu nous demande par imitation de Jésus. Mais faire le bien, ça nous est pas trop naturel, n'est-ce pas? Ça nous est même pas naturel. Faire le bien. On est souvent centré sur nous-mêmes par égoïsme. Alors où trouver la motivation pour faire le bien, pour nous décentrer de nous-mêmes? Bien sûr, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ qui a toujours fait le bien par imitation de Jésus, en imitant Jésus-Christ qui a toujours fait le bien et qui n'a jamais péché. Il a toujours fait le bien, il a fait des actions, le Seigneur. Et effectivement, pour faire le bien, nous avons besoin de nous rappeler notre identité en Christ, ce que Pierre a bien rappelé au début de l'épître, vous vous rappelez, avant de nous dire « fais ci, ne fais pas ça », il nous a rappelé qui nous sommes. Il nous a rappelé qui nous sommes, notre identité en Christ, en Christ. Parce que c'est ce que nous sommes, et nous en avons parlé là lors des conférences, c'est notre identité, ce que nous sommes intérieurement, c'est de notre identité que va découler notre conduite extérieure, notre conduite avec autrui. Comment je vais me conduire par rapport à autrui va dépendre de ce que je suis à l'intérieur. Et l'apôtre Pierre avait bien pris soin de rappeler notre identité en Christ. Alors notre passage commence par ces exhortations en nous rappelant de nous abstenir de désirs charnels qui font la guerre à l'âme. 2 verset 11. On est dans une tension, n'est-ce pas, tant qu'on sera sur cette terre, entre notre identité en Christ et la chair, qui parfois fait la guerre à l'âme. Et effectivement, c'est de ce que nous sommes intérieurement que va découler notre conduite extérieure. Si notre vie intérieure est dominée par le péché, ou Christ n'a pas sa seigneurie, eh bien nos relations avec les autres en seront forcément affectées. On sera, voilà, le risque d'être porté vers le mal. Si au contraire notre vie intérieure est remplie de l'Esprit de Dieu, eh bien notre vie intérieure se traduira extérieurement par une bonne conduite. Une bonne conduite envers autrui. Une bonne conduite qui aura forcément un impact sur lui, sur elle. Au point, et c'est ce que Dieu veut, que des gens se tourneront vers Christ par notre conduite. Et c'est ce que Dieu veut. Parce qu'il est écrit qu'un jour Dieu les visitera. On ne sait pas quand. Dieu les visitera. Et notre conduite avec les personnes, eh bien, elle est importante. Le jour où Dieu va les visiter, ces personnes vont se rappeler de nous, de notre bonne conduite avec eux, notre patience parfois pour supporter leur mauvais traitement. Et c'est à ce moment-là, lorsque Dieu les visitera, elles comprendront pourquoi nous nous sommes conduits différemment de ceux du monde. Et elles rendront gloire à Dieu. Prions que Dieu les visite, puisqu'il y aura un jour où Dieu les visitera. On ne sait pas quand, mais prions pour que Dieu les visite, que ce soit nos familles, nos collègues de travail, nos proches, nos voisins. Alors ce texte de 1 Pierre, il est là pour nous guider dans nos relations avec autrui. Et vous avez remarqué, ça part des relations les moins proches, on vit dans une société, on n'est pas des ermites, hein. Ça part des relations des moins proches pour se rapprocher, nos relations au travail, puis nos relations dans la famille, avec le conjoint. Des cercles de plus en plus concentriques et tournés vers le centre. Alors effectivement, il y a une progression là dans nos relations avec les autres. Et donc les relations les moins proches aux plus proches, dans la société, au travail et dans notre couple. Et effectivement, on n'a pas le même degré d'intimité avec tout le monde. C'est tout à fait normal. Mais Dieu soit loué, nous avons un guide de bonne conduite avec tout le monde. Dieu a pensé à tout dans sa parole. Et soyons honnêtes, nous n'arrivons pas à aimer tout le monde. Aimer tout le monde, c'est pas qu'une question d'avoir un sentiment. Mais même en action, nous n'arrivons pas à aimer tout le monde. Mais si nous n'arrivons pas à aimer tout le monde, ce qui nous est demandé à tous, chrétiens, enfants de Dieu, c'est d'honorer tout le monde, de leur montrer du respect et de l'honneur. Si vous comptez le nombre de fois où il est question d'honorer tout le monde et de respect, de conduite respectueuse. Honorer tout le monde, ça veut dire aussi bien le président de la République, Monsieur Macron, que ses ministres, qu'un mendiant, que notre employeur, et bien sûr que notre plus proche prochain, que notre conjoint. Ça peut couler de soi, honorer notre conjoint, mais si l'apôtre Pierre a pris la peine, sous la dictée de Dieu, de dire honorer notre conjoint, c'est que c'est un rappel dont nous avons besoin. Je rappelle le verset 12, chapitre 2, verset 12, « Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Ne nous a pas demandé d'aimer tout le monde, mais d'honorer tout le monde. Pourquoi honorer tout le monde, même ceux qu'on a du mal à aimer? Parce que, rappelons-nous que, et ça a été dit encore lors des conférences, nous avons été créés à l'image de Dieu. Même celui ou celle qui est désagréable, il est à l'image de Dieu. Et Christ est mort non seulement pour mes péchés, j'ai une relation personnelle avec Dieu par Jésus, mais il est mort pour ses péchés, celui que j'ai du, ou celle que j'ai du mal à aimer. Rappelons-nous effectivement qu'il est une créature à l'image de Dieu, qu'il est aimé de Dieu. Et puis vous avez remarqué le roi. Aujourd'hui on dirait le président de la République. Honorer le roi. Même si on n'est pas toujours d'accord avec les méthodes du gouvernement, hein, on peut ne pas être d'accord, mais il nous est demandé de l'honorer. Ça veut dire de ne pas le médire de lui, de ne pas l'insulter, de ne pas le mépriser, même dans le secret de notre chambre. Mais bien sûr, dans un autre passage, il nous dit de prier pour les autorités. Et Dieu sait qu'ils en ont besoin. Elles en ont besoin. Et puis, une autre raison d'honorer tout le monde, c'est que qui n'aimerait pas être honoré, respecté? Si tu veux, et on peut le dire, il n'y a pas qu'aux jeunes qu'on peut le dire, si tu veux qu'on te respecte, respecte les autres. N'est-ce pas? Si on veut être honoré, honorons les autres. Mais aimer est à un degré plus fort qu'honorer. Et ça, l'amour, ça concerne quoi? Déjà les relations entre frères et sœurs, entre nous, dans l'Église. Et ça, ce point sera traité dans le chapitre 5, nos relations entre frères et sœurs dans l'Église. Et bien sûr, l'amour concerne les relations dans la famille, et là, il est question du couple. Les relations dans la famille, les relations dans l'Église doivent obligatoirement être empreintes d'amour. Parce que nous sommes membres d'une même famille. Famille spirituelle, famille de Dieu, et aussi famille humaine. C'est l'amour qui est la caractéristique, qui devrait être la caractéristique d'une famille. Et honorer tout le monde, eh bien, ça passe par quoi? Par une bonne conduite. Bien se comporter avec autrui. Que ça soit le moins proche jusqu'au plus proche. Et d'après ce texte, la bonne conduite passe par, forcément par la soumission. Alors là, c'est un mot qui est pas à la mode aujourd'hui, la soumission. Peut-être je marche sur des œufs, mais en tout cas, voyons ce que dit ce texte. La bonne conduite passe forcément par la soumission, un mot qui passe mal dans notre société aujourd'hui. Et ça date pas d'hier, hein. Déjà en mai 68, voilà, il est interdit d'interdire ce que l'on entendait. Mais la parole de Dieu nous éclaire sur ce point. Soumission à qui? Si dans ce texte, il y a une progression, soumission aux autorités dans la société pour vivre ensemble. Soumission à l'employeur au travail et soumission, et là, je me limite à ce que dit la Bible, soumission au mari dans le couple. Alors, on accepterait mieux de se soumettre si la soumission était réciproque, n'est-ce pas? Je veux bien te soumettre à condition que tu te soumettes à moi. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, d'après la Bible. Ça marche pas comme ça, parce qu'il est question d'autorité. On va pas dire au policier qui vient vous demander des comptes, ok, je me soumets à vous, mais vous vous soumettez à moi. On n'oserait pas faire une chose pareille, n'est-ce pas? Non. La bonne formule serait plutôt de dire, je me soumets, sachant que vous aussi, vous avez quelqu'un à qui vous soumettre, à qui vous devez rendre des comptes. et c'est pas forcément à moi. Alors c'est ce qu'on va voir effectivement dans la progression de ce texte. Et souvent on confond soumission et soumission servile. Mépriser la personne. Or ici, d'après la parole, il s'agit pas d'une soumission servile. Ne discute pas, voilà. Nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et on se soumet à quoi d'abord? On se soumet à une autorité. Et une vraie autorité, elle est établie par le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous est demandé de nous soumettre, parce qu'en nous soumettant à l'autorité, nous nous soumettons au Seigneur. Une vraie autorité établie par le Seigneur, elle doit être reconnue et acceptée, sans avoir besoin de taper du poing sur la table. Une vraie autorité, elle doit être respectée, parce qu'elle vient du Seigneur. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de nous soumettre? Parce que c'est par ce moyen-là que nous allons gagner des âmes à Christ, et c'est ce qu'il veut. Notre soumission va être un moyen de gagner des âmes à Christ, notre modèle. Alors, avant d'aborder le premier point, mon père m'a dit il y a longtemps, lorsque j'étais encore un enfant, une parole qui m'a marqué, dont je me souviens encore aujourd'hui. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, rappelle-toi qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Et ça m'est resté. J'étais enfant à l'époque. Ça m'est resté. Et ô combien je lui suis reconnaissant, parce que ça m'a aidé. Alors effectivement, tout le monde a quelqu'un à qui se soumettre, et déjà, eh bien d'une manière élargie, il s'agit de se soumettre aux autorités. Alors oui, la vraie liberté, elle est dans l'imitation de Jésus-Christ pour gagner des âmes à lui, premièrement par la soumission aux autorités qu'il a établies. Alors les autorités, nous sommes des citoyens. Mais en premier, avant d'être citoyens de France, nous sommes des citoyens du ciel, ce que l'apôtre Pierre a bien pris soin de rappeler au début. Et c'est pour ça qu'il dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Alors il nous exhorte à ne pas nous y attacher, à ne pas accumuler des richesses que nous n'emporterons pas avec nous au ciel. Pourquoi désirer ces richesses terrestres? Même si nous pouvons bien vivre, effectivement, nous avons les moyens de bien vivre, nous pouvons, mais ne pas y attacher notre cœur, c'est autre chose. Pourquoi chercher à faire des économies en fraudant avec l'URSSAF, par exemple, ou en ne déclarant pas la totalité de ses impôts? Marc 12, 17 nous dit, Jésus qui nous dit, alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La Bible nous demande de nous soumettre aux autorités. Pourquoi? À cause du Seigneur. Verset 2:13. Parce que les autorités viennent de lui. Alors, vous allez me dire, mais oui, d'accord, mais elles sont pas parfaites, ces autorités. Peut-être, vous pensez ça. Eh bien, aussi imparfaites soient-elles, Dieu nous demande de nous soumettre. Même si nous sommes plus compétents qu'elles dans certains domaines, il a établi. C'est pas une question de compétence, c'est une question d'autorité. Et c'est pas facile, je vous l'accorde. Je suis d'accord. Pourquoi besoin d'autorité dans cette société? Eh bien, pour maintenir l'ordre dans la société, pour éviter l'anarchie, pour que nous puissions vivre en paix. Les autorités sont là pour permettre aux gens de vivre en paix les uns avec les autres. Dans toutes nos différences, dans toutes les confessions, les autorités, c'est bien pour ça que la loi sur la laïcité, elle est bonne, la loi 1905, parce qu'elle sépare bien l'Église et les religions. Et Jésus a bien dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc nous soumettre à cause du Seigneur, parce que effectivement, de notre soumission dépend l'ordre dans la société et la paix. Ce sont les autorités qui votent des lois. Et qui dit loi dit obéissance. Les lois sont votées pour nous y soumettre. Alors, je vais détailler. Les lois, à quoi ça sert? Déjà, Dieu a établi des lois dans la nature qui sont immuables. Des lois, ça s'appelle aussi des lois. Ce sont des lois physiques créées par Dieu. Comme par exemple la loi de la pesanteur. Si nous pouvons marcher, c'est parce que nous sommes tous attirés, comme un aimant, par la gravité terrestre. Et c'est bien pour ça que nous pouvons marcher. Tout objet sur Terre obéit à la loi de la pesanteur. Autre loi, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et pas le contraire. Sinon, la vie ne serait pas possible. Et bien, de même que Dieu a établi des lois physiques, il a aussi établi des lois morales dans nos rapports les uns avec les autres. Et bien sûr, on les trouve dans les 10 commandements, qu'il est bon de connaître, de rappeler aux enfants aussi. Pas beaucoup, mais ce sont les lois principales à connaître. Parce que les 10 commandements, si vous les regardez, eh bien, c'est le mode d'emploi pour bien vivre, déjà, dans notre relation à Dieu et pour bien vivre en société les uns avec les autres. Il y a nos rapports avec nos parents, nos rapports avec notre prochain. Et le premier, c'est notre relation à Dieu. Et bien sûr, les 10 commandements ne sauvent pas. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Nous sommes incapables par nous-mêmes d'obéir parfaitement aux 10 commandements. Et Jésus est bienvenu pour nous y aider. La loi morale de Dieu, elle est bonne. Si tout le monde y obéissait, la société serait un paradis. Le meurtre et le vol sont des délits dans la loi laïque. Ce sont des délits qui sont punis par la loi, par des lois humaines. Et ces lois-là, Dieu les avait déjà établies dans les 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne tueras point. Preuve que la loi morale de Dieu, elle est bonne. Lorsque nous nous y soumettons, notre témoignage aura un fort impact sur la société. Notre témoignage chrétien sera d'autant plus fort en respectant la loi morale de Dieu. Parce que les autorités viennent de Dieu. Les autorités viennent de Dieu. La loi morale, elle vient de lui. Si nous nous soumettons à la loi morale de Dieu, si nous nous soumettons aux autorités qui viennent de Dieu, notre témoignage aura un poids qui va interpeller les gens et les attirer à Dieu. Mais la soumission, elle a ses limites. Déjà, dans la société, la soumission a ses limites. Quelles sont ces limites? Eh bien, rappelons-nous, si les autorités n'œuvrent plus pour maintenir l'ordre et la paix, et là, c'est arrivé dans des sociétés passées, dans des dictatures. Si les autorités n'œuvrent plus pour maintenir l'ordre et la paix dans la société, ou si elles font voter des lois qui sont contraires à la parole de Dieu, eh bien, la Bible est claire. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Et dans l'histoire de France, il y a un triste rappel. En 1942, certains policiers français, à qui il avait été confié de rafler les Juifs pour les déporter. Ils se sont soumis, oui, la plupart, mais certains policiers français ont averti à l'avance les Juifs de la rafle qui allait survenir prochainement, de sorte que beaucoup ont pu s'échapper. Voilà, les autorités nazies attendaient une rafle de plusieurs dizaines de milliers de Juifs. Il n'y en a eu que 13 000 ou quelque chose comme ça. C'était bien sûr une horreur. Donc certains cas, effectivement. Et pour cela, eh bien, il nous est demandé de désobéir civiquement lorsque les lois qui nous sont demandées vont à l'encontre de la parole de Dieu. Clairement, hein, clairement. Un autre exemple, quand un pays est fermé à l'évangile, les gens n'ont pas accès à l'évangile, et que des chrétiens y font rentrer des Bibles, comme avait fait frère André. Il avait franchi le rideau de fer pour distribuer des Bibles, à l'origine de Porte Ouverte. Hein. Il a fait rentrer des Bibles clandestinement. Eh bien, c'est une obéissance à Dieu, là, même si les autorités étaient contre. Soumission donc aux autorités, quand elles-mêmes sont, effectivement, ne nous demandent pas d'agir contre Dieu. On restreint le cercle, on se rapproche maintenant les relations dans notre travail, au travail. Les relations au travail. La vraie liberté est dans l'imitation de Jésus-Christ pour gagner des âmes à lui, au travail par la soumission de l'employé à son employeur. Alors, pour ceux qui sont encore actifs, eh bien les collègues de travail sont ceux avec qui, n'est-ce pas, vous passez le plus clair de votre temps. Ce sont des collègues que vous n'avez pas choisis. Parfois certains sont faciles, d'autres pas. Et puis au travail, il faut se supporter parfois et aussi se soumettre. On parle de hiérarchie au travail. Et le texte ne parle pas de hiérarchie dans le couple. Mais au travail, oui. Enfin, en tout cas, il s'agit de se soumettre à... Le mot hiérarchie n'est pas dit, mais dans ce que nous vivons au travail, ce que vous vivez, eh bien, il y a une hiérarchie. Je relis le verset 2:18, serviteur. Soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. En toute crainte. Alors, en toute crainte, ça veut dire qu'il faut craindre son employeur? Non. C'est Dieu qu'il faut craindre. En toute crainte. C'est Dieu. C'est Dieu seul que nous devons craindre, verset 17. en évitant de faire quoi que ce soit qui lui déplaise. Pourquoi se soumettre au travail? Déjà parce que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu. Verset 16. Serviteurs de Dieu qui nous demande de nous soumettre aux autorités qu'il a établies. Et vous savez, le mot serviteur, en grec, c'est doulos, ça veut dire esclave. Ça veut dire esclave. Alors, on n'aime pas ce mot. Mais je suis pas esclave, moi je suis libre. Oui. Et c'est vrai, en tant que chrétiens, nous sommes libres. Nous sommes libres de quoi faire? Déjà de ne plus pécher. Nous sommes libres de ne pas pécher. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Nous sommes libres, non seulement de ne pas pécher, mais nous sommes libres de nous soumettre à Dieu. Volontairement, de bon gré, nous sommes libres de nous soumettre à Dieu. Voilà où est la vraie liberté. Alors, attention au piège. Il y en a. Attention au piège au travail de se dire, moi je suis chrétien, pas mon employeur, donc je ne me suis pas obligé de me soumettre à lui. Non, ça marche pas comme ça. C'est notre soumission à Dieu qui sera un témoignage chrétien qui pourrait bien faire que notre employeur devienne chrétien lui-même. C'est justement notre soumission qui pourra faire que notre employeur devienne chrétien. Et si l'employeur est difficile, il y en a un. Le monde du travail aujourd'hui est, je crois, d'après tout ce qu'on entend, beaucoup plus difficile aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies, une pression énorme est mise sur les employés. Que faire si l'employeur est difficile? L'attaquer au prud'homme? Non. Plutôt prier pour lui. Et continuer de se soumettre dans l'espoir que Dieu le visitera et le sauvera. Mais là encore, la soumission a ses limites. C'est arrivé à certains. Si l'employeur demande quelque chose de contraire à la parole de Dieu, par exemple falsifier les comptes, ou par exemple mentir, donner un faux témoignage sur un tel pour l'exclure, ou je ne sais pas, eh bien la parole est claire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et j'ai un témoignage. Lorsque je m'étais remis à rechercher du travail après mes études à l'école biblique, les économies avaient fondu, et donc je m'étais remis à chercher du travail, et j'avais postulé dans une société de services en informatique. Une société de services, vous êtes employé par un... c'est pas de l'intérim, vous êtes salarié par une société de services qui vous envoie chez un client. Et le premier client qu'on m'avait proposé, c'était la Française des Jeux. Et bien sûr... non, je ne me sentais pas du tout à l'aise dans ce rôle-là. C'était encourager les gens à dépenser leur argent au lieu de nourrir leur famille. Et j'ai dit, par motif de conscience, j'ai dit à mon employeur, non, par motif de conscience, vous savez, je suis chrétien et je ne peux pas. Alors, je ne savais pas trop ce qui allait m'arriver, quel souhait j'allais être mangé, entre guillemets. Est-ce que c'était fini, aller voir ailleurs? Pas du tout. On respecte votre conviction, on va vous proposer autre chose. Et là, ça s'est bien passé. Là, ça s'est bien passé, et je crois même que le premier contrat était une caisse de retraite, si je me rappelle bien. Mais dans d'autres cas, ça ne se passe pas aussi bien. Quand on refuse à son employeur, par motif de conscience, ça peut coûter une mise à l'écart. Et vous savez, les mises à l'écart, ce sont vraiment des causes de souffrance. Si vous souffrez dans votre travail à cause de ça, ne soyez pas étonnés. Vous vous sentez mis à l'écart. On parle de vous derrière votre dos. Un refus peut coûter une mise à l'écart à défaut d'un renvoi, à défaut parfois même d'une démission. Parfois, on peut être conduit effectivement à quitter. Et oui, ça peut occasionner des souffrances. Et dans ce cas, si vous souffrez, malgré le bien que vous faites bien votre travail consciencieusement, eh bien, la Bible dit que c'est une grâce que de les supporter, ces mauvais traitements. C'est une grâce. C'est pas du masochisme. C'est une grâce parce qu'on communie aux souffrances de Christ, qui a connu ces souffrances-là. Lui qui n'a jamais péché. Et Dieu, soit loué, il n'abandonne jamais ses enfants. Alors oui, il est normal de souffrir en tant que chrétien dans ce monde. Il est normal de souffrir en tant que chrétien dans ce monde. Mais attention, et l'apôtre Pierre fait bien la différence. Il ne s'agit pas de souffrir à cause d'un péché. Parce que ça aussi, c'est une cause de souffrance. Alors, je prends un exemple extrême et volontairement. Si un employé utilise son temps de travail, tout son temps de travail, pour évangéliser, mais il ne fait plus son travail pour lequel il est payé, c'est un contre-témoignage. Et puis, qui plus est, il empoche l'argent. Mais il n'est pas payé pour ça. Bien sûr qu'il nous a demandé de témoigner. Mais pour cela, nous pouvons utiliser les pauses déjeuner, pour parler avec les collègues, pour leur parler de « qu'est-ce que tu as fait ce week-end ?»« Ah ben, je suis allé à l'église. »« Ah, tu vas à l'église ?»« Eh oui. » Et puis des fois, rien qu'en entendant le mot « église », les gens, vous savez, sans un grand discours, les gens sont interpellés. Parce qu'ils voient, ils vous voient vivre votre quotidien. Alors ne donnons pas prétexte à l'ennemi de nous accuser à cause d'une mauvaise conduite. Nous sommes libres de quoi faire, de ne pas pécher. La grâce n'est pas un permis de pécher. Non, c'est pas une autorisation de pécher. Ni la miséricorde d'ailleurs. Alors c'est intéressant, j'ai lu là dans une pensée cette semaine, il y a la grâce et la miséricorde. Souvent on les met sur le même plan, mais il y a une différence entre grâce et miséricorde. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on mérite. C'est de ne pas recevoir la punition que nous méritons lorsque nous avons péché. Ça s'appelle la miséricorde. Lorsque Dieu nous fait miséricorde, nous ne recevons pas la punition qu'on mérite. Alors que la grâce, c'est ce que Dieu nous donne et que nous n'avons pas mérité. La grâce est ce que Dieu nous donne et que nous n'avons pas mérité. Il y a une nuance entre grâce et miséricorde. C'est pour cela que de souffrir injustement, souffrance que vous n'avez pas méritée, c'est une grâce qui mène à la gloire, à la gloire. Alors si nous sommes accusés par des hommes ignorants et insensés pour avoir fait le bien, si vous êtes accusés pour avoir bien fait votre travail, c'est une grâce qui mène à la gloire. Pourquoi c'est une grâce? Parce que par votre conduite, vous allez faire ressortir la vérité. Alors, à plus de relief, vous allez faire ressortir ce que Dieu approuve pour sa gloire. Vous allez mettre en évidence le caractère de Christ. Qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette situation? Vous allez faire ressortir sa douceur, sa patience, son humilité, sa sagesse, sa confiance en Dieu, en l'imitant par imitation de Jésus-Christ. De cette manière, les calomniateurs auront leur bouche fermée. Quand il n'y a rien à dire sur le comportement d'un employé, la bouche est fermée. Et c'est là que nous suivrons l'exemple de Christ, qui supportait les mauvais traitements sans jamais se venger, ni insulter, ni menacer. Il a toujours eu de bonnes paroles. Et voilà la véritable force. Voilà la véritable force. Jésus nous a demandé, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Aujourd'hui, vous dites ça à un non-croyant. Non, c'est pas du masochisme. Tendre l'autre joue, ça veut dire compter sur Dieu pour me défendre. C'est pas aimer recevoir une autre claque. Mon défenseur, c'est Dieu. Tendre l'autre joue n'est pas aimer souffrir, mais plutôt s'en remettre à Dieu, qui juge justement et qui nous défend. Le seul qu'il n'a pas défendu. En tout cas, le seul. Il y en a d'autres aussi, mais celui qu'il aurait pu défendre, celui qui lui est le plus cher, celui qu'il n'a pas défendu, eh bien, c'est son propre fils, Jésus, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, nous dit ce texte. Dans quel but? Pour que nous vivions pour Dieu. Étant morts à nous-mêmes, nous sommes morts à nous-mêmes par la foi en Jésus-Christ et par la repentance. Dieu n'a pas défendu son propre fils pour nous défendre. Même si parfois, ça ne veut pas dire que nous passons au travers des mailles du filet, qu'à chaque fois nous nous en sortons. Parfois la délivrance, pour certains martyrs, eh bien, effectivement, c'est la mort. Ils ont reçu la délivrance. Alors, ainsi nous pouvons revenir vers le bon berger. Jésus a donné sa vie, il a payé pour nous, il nous a soignés. Ses meurtrissures nous ont guéris. C'est lui qui nous rassemblera pour que nous le suivions. Et pour que nous amions d'autres brebis dans sa bergerie, par notre témoignage. Jésus est mort pour ça, c'est ce qu'il veut. Et ça touche aussi, ça peut toucher le conjoint quand il n'est pas chrétien. Je réduis encore le cercle, là on va arriver aux relations familiales. Jésus est mort pour ça. Que votre conjoint soit ou non déjà entré dans la bergerie, eh bien, mon troisième point, la vraie liberté est dans l'imitation de Jésus-Christ pour gagner des âmes à lui, dans la famille par la soumission de la femme à son mari, qu'il soit chrétien ou pas. Et là, on est dans le cadre familial. Avec notre plus proche prochain, là, le cercle s'est réduit. Notre plus proche prochain, c'est notre conjoint, qu'il soit croyant ou pas. Alors attention, hein, ici, c'est pas une exhortation à se lier à des non-croyants, à un non-croyant. La Bible est claire là-dessus, il y a des avertissements. Avant, quelqu'un qui sait qu'il faut pas se lier à un non-croyant, eh bien, s'il décide de passer outre, il s'expose à des problèmes dont la Bible l'avertit. Maintenant, il peut arriver que dans un couple non-croyant, un des deux se convertit et pas encore l'autre. Ce texte est pour cela. Les relations ne sont pas les mêmes au travail que dans la famille. Dans la famille, que ce soit la famille humaine, la famille de Dieu ou la famille de Dieu, c'est l'amour qui doit régir nos relations. C'est l'amour qui doit régir en priorité nos relations. Pourtant, de la même manière que Pierre demande aux autorités de se soumettre à leur maître, aux serviteurs de se soumettre à leur maître, il demande à la femme de se soumettre à son mari. Alors aujourd'hui, vous dites ça, ça n'a pas bonne presse. Hein. Dans une société voilà, qui vise à monter de plus en plus les hommes contre les femmes, je ne peux pas le dire autrement, ou les femmes contre les hommes. Ne nous trompons pas de combat. C'est là qu'il faut tordre le cou, j'utilise exprès l'expression, entre guillemets, c'est là qu'il faut tordre le cou à une fausse conception de la soumission. L'erreur la plus répandue, c'est d'assimiler la soumission à l'infériorité. Assimiler la soumission à l'infériorité. Ce qui la rend inacceptable aux yeux de beaucoup. Soumission servile, on pense tout de suite, esclavage. C'est pas de ça dont il est question ici. Si Pierre, juste avant de parler de la femme, Pierre avait parlé de Christ, de son sacrifice pour nous, à cet endroit-là. Il en a pas parlé avant de parler des autorités ou de l'employeur. Pierre avait parlé de Jésus juste avant de parler de la femme. Pourquoi ? Pour qu'elle l'imite. Pour que la femme imite Jésus-Christ. Et l'expression de même du verset 1, eh bien, nous invite justement la femme à imiter le Christ. 3, verset 1. Voilà la clé. Imiter le Christ qui s'est soumis parfaitement, en tout, à son Père. Son Père, duquel il n'est pas inférieur. Il est de la même nature. Il est Dieu, de la même essence que le Père. Et Jésus le Fils s'est soumis parfaitement à son Père. Il est lui-même Dieu, Dieu le Fils. Alors si on ramène ça à la relation mari et femme, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Quelqu'un a dit, je l'ai lu récemment, et la dame qui est venue hier, une dame de l'extérieur qui est chrétienne, une Suissesse, elle m'a cité cette illustration. Alors je vous la recite, parce que je l'avais déjà dans mon message, je vous la recite. Dieu n'a pas tiré la femme des pieds de l'homme pour être écrasée par lui, ni de sa tête pour qu'elle domine sur lui, mais il a tiré la femme de la côte de l'homme pour qu'elle soit à ses côtés, qu'elle soit une aide, qu'elle soit complémentaire. Alors oui, effectivement, dans la création, il y a un ordre de la création. Adam a été créé le premier. Et c'est à lui que Dieu avait donné l'ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La femme n'avait pas encore été créée à ce moment-là. L'homme était responsable de son foyer. Il l'est toujours. Adam était responsable de son foyer. Et responsable de la création que Dieu lui avait confiée. Et en désobéissant avec sa femme, il a entraîné toute la création dans la chute. Le mari a reçu l'autorité de diriger le foyer. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question d'ordre. Autorité, je vais y revenir, bien sûr, dans l'amour, ce qu'il ne faut pas oublier. Et autorité ne veut pas dire... Autorité veut dire aussi concertation avec la femme. Dans le meilleur des cas, c'est de chercher ensemble la volonté du Seigneur, lorsque les deux sont chrétiens. De chercher ensemble, mais quelle est la volonté du Seigneur là dans cette décision ? Est-ce qu'on doit déménager ? Est-ce qu'on doit... et les enfants, comment se comporter avec eux ? Chercher ensemble quelle est la volonté du Seigneur. Dans le meilleur des cas, les deux sont d'accord. Si l'un n'est pas d'accord, au bout de quelques concertations, c'est le mari qui doit trancher. La femme est appelée à se soumettre à son mari comme l'Église est appelée à se soumettre à Christ. Et le mari, lui aussi, il a des comptes à rendre. Il est aussi appelé à se soumettre à Christ. Aussi. Parce que Christ s'est lui-même soumis en tout à son Père. Dans quel but Dieu s'est-il soumis à son Père? Pour nous gagner à lui. Si nous sommes là, c'est parce que Christ a obéi parfaitement. Et il est le parfait modèle. Il est le parfait modèle que Dieu nous a donné. Pour amener des âmes à lui. Nous sommes tournés vers Dieu parce que Christ a parfaitement obéi à son Père. Si nous sommes là ce matin. C'est une question d'ordre et d'autorité établie par Dieu. Et si nous inversons les rôles, ça conduirait au chaos. Concurrence. Rivalité. Et la soumission dans un couple au mari, enfin de la femme au mari, elle est aussi de mise, même si la femme est plus instruite que son mari. Elle peut être plus diplômée que son mari. Mais la soumission est quand même de mise. Et si le mari n'est pas croyant, est-ce que c'est une raison pour ne pas se soumettre? Non. C'est justement par la soumission à son mari que la femme pourra le gagner à Christ. Avec beaucoup de prières, bien sûr. Et la femme pourra le gagner sans parole, nous dit le texte. Et c'est intéressant si, de creuser les mots qui sont utilisés, le mot soumission, se soumettre, le mot obéir, du verset 6, chapitre 3. Ce mot obéir veut dire aussi écouter. Est-ce que les problèmes dans le couple ne viennent pas d'un manque d'écoute? Le sens premier du mot qui est utilisé au verset 6, c'est écouter. Un mari qui ne se sent pas écouté ne se sentira pas respecté. Et puis, une femme chrétienne qui veut gagner son mari à coup de versets bibliques, beaucoup de versets bibliques, c'est pas dit que ça marchera, parce que le mari pourra prendre ça comme quoi elle veut prendre autorité sur lui. Non, la femme pourra gagner le mari, même sans parole. Si le mari voit dans la femme le caractère de Christ, eh bien, il la verra plus belle que si elle se parait de plein de bijoux et de robes extravagantes. La vraie beauté, elle est intérieure. Et elle devient même extérieure après. Alors l'important, c'est quoi? C'est d'être connu et vu du Seigneur. On parle ici, on peut dire, il serait question de mode ici. Comment s'habiller pour plaire à son mari? Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir des bijoux ou des jolies robes, non. C'est aussi un témoignage de bien s'habiller. Mais, quand on mise tout là-dessus, sans soigner l'intérieur, c'est pas pour autant que le mari sera gagné. L'important est d'être connu et vu du Seigneur, parce que la mode, selon Dieu, ne change pas. Contrairement à la mode dans la société. Si vous regardez comment étaient habillées les femmes en 1900, et aujourd'hui, la mode a beaucoup changé. Mais la mode, selon Dieu, ne change pas. La mode, selon Dieu, notre être intérieur ne change pas. Mais là encore, dans le couple, là encore, la soumission a ses limites. Si le mari a des exigences contraires à la parole de Dieu, ou veut humilier sa femme, et là je prends le cas extrême, ou s'il est violent, s'il est au point d'avoir des coups qui sont portés, il faut dire stop dès les premiers coups. C'est à Dieu qu'il faut obéir. Et vous avez remarqué l'expression « en toute crainte ». Ce n'est pas la crainte de l'homme, c'est la crainte de Dieu. La femme est exhortée à avoir la crainte de Dieu pour le bien de son mari. Il ne faut pas craindre les hommes. Et vous avez remarqué aussi, il n'est pas dit ici pour la femme de supporter les mauvais traitements. Ça, c'est dit pour les relations employeur-employé, mais ce n'est pas dit pour la femme. Lorsque le mari profite de sa position pour humilier sa femme, la femme, elle peut, lorsque ça dépasse les limites, il n'est pas dit qu'elle doit supporter. Alors effectivement, parfois il faut chercher de l'aide. Je prends maintenant l'exemple d'un couple qui est chrétien. Si la femme doit imiter Christ en se soumettant à son mari, le mari lui aussi doit imiter Christ en aimant sa femme. C'est de l'imitation de Jésus-Christ. Les deux, nous sommes invités à imiter Jésus-Christ. Et les exhortations au mari commencent aussi par l'expression « de même ». De même, ça veut dire en ayant Christ comme exemple. Ça se rapporte à l'exemple de Jésus-Christ. Et une chose, et moi ça me fait du bien, une chose qu'on ne doit pas oublier dans un couple chrétien, c'est que ma femme, elle est aussi ma sœur en Christ. Elle est aussi ma sœur en Christ. Et comment je dois traiter ma femme? Eh bien, comment je traite mon frère, ma sœur en Christ dans l'Église? Là aussi, ça va beaucoup nous aider. Une chose qu'on ne doit pas oublier, qui doit nous aider dans le rapport mutuel, notamment quand des différends surgissent, eh bien, c'est que dans un couple chrétien, les deux conjoints sont aussi frères et sœurs en Christ, ce qui implique respect et honneur mutuel. Conduite respectueuse, nous a-t-il dit, chapitre 3, verset 2, et aussi verset 7, lorsqu'il est demandé au mari d'honorer sa femme. Pourquoi? Parce que les deux ont un statut égal devant Dieu. Nous sommes tous deux co-héritiers de Christ. Nous faisons partie de la famille du Père. Nous sommes enfants du même Père. Et dans la famille de Dieu, il n'y a pas de supériorité. Il y a une autorité, mais c'est pas que l'un est supérieur à l'autre. Il n'y a pas de supériorité dans la famille de Dieu. Nous sommes enfants d'un même Père. Mais les deux sont différents. Dieu nous a créés différents. Ne serait-ce que physiquement. Un homme est mieux à même d'être maçon ou camionneur qu'une femme, parce que sa corpulence s'y prête mieux. Oui, la femme, effectivement, la Bible le dit, est un être plus faible. Ça concerne la force physique. Nous n'avons pas été conçus, même si nous sommes issus de la même patte, nous ne sommes pas. Nous n'avons pas la même corpulence physique. Et ce matin, j'entends encore à la radio. Et on voit bien, je vais citer l'exemple, en Angleterre, effectivement, une équipe de sport féminine, et à l'intérieur, il y a un transsexuel. Et les femmes ont manifesté pour dire, c'est pas juste, parce que cette femme, qui est en fait un homme, elle a plus de force, elle a un lancer, elle lance beaucoup plus loin, il s'agissait de lancer à la pêche, elle est beaucoup plus forte. Elle a gardé sa corpulence d'homme, même si elle a voulu changer de sexe, entre guillemets. Et on voit toutes les incohérences, n'est-ce pas? Alors, effectivement, nous sommes différents. Si elle veut égaler son mari dans la musculature, ça ne la rendra pas plus belle. Chacun a son rôle selon comment Dieu nous a créés. Alors aussi, ce sont des clichés, mais qui ont quand même une part de vérité. Les femmes sont plus émotives que les hommes. Les hommes sont réputés pour être plus cérébraux, moins spontanés, alors que la femme, elle va exprimer ses sentiments. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que la femme n'est pas aussi cérébrale, mais en tout cas, moins que le mari, croit. Parfois, qui lui réfléchit plus calculateur, des fois l'homme. Alors, pour terminer, quelques principes pratiques dans la vie de couple. Quelques principes pour une vie de couple réaliste et harmonieuse avec la grâce de Dieu. Déjà, entre époux, gardez la transparence. Pas de cachotterie entre époux. Pas de cachotterie. Qu'il y ait une confiance totale d'un mari envers sa femme et vice-versa. Aussi, gardons la communication entre époux. Vous savez, après des nombreuses années de mariage, on se dit « Oh, je sais déjà ce qu'il va dire, je sais déjà ce qu'elle va dire, je le connais tellement. » Oui, c'est vrai, mais elle ne l'a pas dit. Et il vaut mieux qu'elle le dise, parce qu'elle se sentira écoutée. Alors, garder la communication entre époux, ça veut dire attention à l'effet vapeur, chaudière, explosion. Évitons cet effet vapeur, chaudière, explosion. La vapeur monte, puis ça explose parce qu'il n'y a pas eu de communication. Autre principe, savoir pardonner et demander pardon. Car Christ nous a pardonné nos offenses. Autre principe, ne pas exiger de l'autre la perfection. Il faut savoir passer sur les erreurs minimes, mineures de l'autre, en sachant que nous-mêmes, on n'est pas encore arrivés, en se rappelant qu'on n'est pas soi-même parfait. Si nous plaçons la barre tellement haute à une hauteur que nous-mêmes, nous n'y sommes pas arrivés, quelque chose qui ne va pas. Aussi dans le domaine financier, c'est souvent la cause de disputes dans un couple. Cherchons l'unité dans le domaine financier. Évitons les grosses dépenses si c'est pour faire concurrence au voisin qui a une plus belle voiture. Évitons les achats à crédit pour des objets dont nous n'avons pas foncièrement besoin. Faisons avec les moyens que nous avons. Cherchons le meilleur rapport qualité-prix. Là, ça peut être un beau travail de collaboration entre mari et femme. On a envie d'un objet et on peut trouver, en cherchant bien, une bonne affaire à faire. Autre rapport, autre principe. Évitons les règlements de compte en public, devant témoins, dans un couple. Et surtout, surtout, évitez devant les enfants de ne pas prendre les enfants à témoin. Il vaut mieux s'expliquer en privé, n'est-ce pas? Parce que ça humilie l'autre, n'est-ce pas? Lorsque les règlements de compte se font en public. Alors évidemment, quel couple ne s'est jamais disputé? J'en connais pas. Si nous nous disputons, la dispute, la Bible nous dit que le soleil ne doit pas se coucher sur notre irritation. Recherchons la paix. Les disputes ne doivent pas durer 24 heures, et je vais même aller plus loin, les disputes ne doivent pas durer une heure. Même si le cœur n'y est pas, il y a une chose que nous pouvons faire, si les deux nous sommes chrétiens, c'est prier, nous mettre à genoux et prier, se mettre d'accord au moins pour prier, même si le cœur n'y est pas. Et en priant, nous allons nous rapprocher de l'un de l'autre, en nous rapprochant de Christ. Pourquoi? Parce qu'un conflit non résolu peut faire obstacle à la prière. Si nous laissons un conflit pourrir, ça risque de faire obstacle à notre propre prière avec le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous demande de régler nos problèmes dans un couple, le plus tôt possible. On ne peut pas éviter les disputes, mais nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la grâce, tout ce qu'il faut pour les régler. Tout à l'heure, nous avons chanté que nous avons le pain de vie, Jésus. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour régler nos problèmes, par la grâce. Attention donc à ne pas rompre la communion par la dispute. Et puis bien sûr, je termine avec ça, dans un couple. Et c'est, je crois que la responsabilité incombe au mari, hein, partager la parole. Partager la parole et prier ensemble. Partager la parole et prier ensemble régulièrement. Il y a des couples chrétiens j'entends des témoignages qui ne prient pas ensemble. Alors, encore une fois, par nos propres forces, c'est pas la peine. Mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Dieu nous a tout donné pour cela. Et le meilleur garde-fou est l'amour que Christ nous a montré. Je vais prier. Père éternel, je te remercie parce que, Seigneur, tu nous as montré, oui, le meilleur exemple. Toi qui es Dieu, tu t'es soumis parfaitement à ton Père qui est Dieu. Seigneur, garde-nous de confondre soumission et infériorité, Seigneur, comme le monde le fait si souvent. Seigneur, merci de nous rappeler que tu as établi les autorités, aussi imparfaites soient-elles, dans les limites, Seigneur, de l'obéissance à ta parole. Alors donne-nous, Seigneur, le discernement dans le monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas toujours, qui est parfois contre toi. Donne-nous la bonne attitude, Seigneur, lorsque nous avons des choix à faire, que nous fassions les bons choix, que ce soit dans la société, Seigneur, pour vivre, Seigneur, d'une manière qui t'honore par rapport aux autorités que tu as établies. Donne-nous aussi la bonne marche à suivre, Seigneur, au travail. Voilà, tu connais les personnes, tu connais comment chacun vit son travail, facilement ou pas. Et tu sais combien, Seigneur, la vie au travail est, eh bien oui, Seigneur, c'est pas toujours facile, avec des collègues pas toujours faciles qui sont pas chrétiens. Mais je prie vraiment, Seigneur, pour que mes frères, mes sœurs qui sont dans des difficultés à leur travail, avec leurs collègues qui les supportent, tu leur donnes la grâce de les supporter, Seigneur. Et que, Seigneur, ils aient un témoignage vivant de Jésus-Christ, tel que toi, tu te comporterais physiquement avec eux, Seigneur. Et que vraiment, le témoignage soit là. Je prie aussi pour nos couples, Seigneur, nous qui sommes mariés. Merci pour ta grâce que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Seigneur, bien sûr, il y a la théorie. Mais Seigneur, ces choses sont possibles parce que tu nous as donné Jésus et nous pouvons recourir à ta grâce à tout moment. Nous pouvons nous tourner vers toi à tout moment. Seigneur, que nous ne nous privions pas de ces grâces, de tes grâces, Seigneur. Tu sais combien aujourd'hui les couples sont attaqués, Seigneur, avec, tu sais, les courants de pensée qui circulent. Tu sais bien, Seigneur, tout cela. Nous te demandons, Père, de nous garder, notre couple en Jésus-Christ, uni en Jésus-Christ, Seigneur. Et pour que, Seigneur, le monde croie que oui, il est possible de vivre autrement, avec toi, avec nos défauts. Eh bien, Seigneur, toi, tu es venu pour nous rendre meilleurs, Seigneur. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.